Je suis en compagnie de Camille de Toledo. Nous parlons de Le Fleuve qui voulait écrire les auditions du Parlement de Loire que tu as mis en récit, qui sont parues en septembre 2021 au Lien qui libère Manuela édition. Je voudrais faire la généalogie de cette idée du Parlement de Loire. Je la note, je la trouve dans une note qui nous permet de mieux comprendre comment t'es venue cette idée. Dans cette note, je lis, c'est notamment via cette interrogation sur la langue commune et la traduction que Camille de Toledo a commencé en 2008 à proposer la démarche artistique des institutions potentielles qui a servi de cadre à la proposition des auditions du Parlement de Loire. J'aimerais que nous commencions par la généalogie.
Écoute, merci de ton invitation. Donc là, 2008, je crée la première institution potentielle qui s'appelait la Société européenne des auteurs et qui travaillait d'ailleurs déjà avec, j'avais auditionné aussi Bruno, enfin Bruno Latour était parrain de cette première institution potentielle qui tournait autour d'une question très politique mais liée à la langue au fond qui est comment est-ce qu'on crée un commun européen? Comment est-ce qu'on peut penser un espace public européen, et notamment en réponse, ou disons plus exactement, même contre en quelque sorte, la notion un peu du citoyen abstrait de Jürgen Habermas, c'est-à-dire Bürgerschaft, Rationalität, etc. En fait, c'était la question de comment est-ce qu'on incarne ce sentiment par les langues, et donc la traduction devenait la langue de l'espace européen. Et donc on a commencé à travailler là-dessus, il y avait tout un tas de projets qui étaient liés à ça. Et à chaque fois, c'était l'idée de créer la première académie européenne des langues et de la traduction. Et progressivement, si on construit un espace politique autour d'une langue qui est la traduction, alors on a un système d'embrayage ou un système d'embranchement entre les langues. J'avais déjà écrit sur l'entre des langues dans le être et le boulot. Et donc, on avait une constellation nouvelle du politique où, en fait, le politique, ou disons l'espace commun, devient un lieu de dépassement du soi ou de l'entre-soi de la langue, enfin il est très, disons, démonolinguisme des autres, hein, tu vois, si on passait à... Et donc on a travaillé là-dessus pendant 10 ans, et en fait, chemin faisant, il y avait tout ce... Moi j'ai une formation de juriste, de politiste aussi, en plus de la littérature, et donc il y avait par ailleurs ce qui se passait autour des droits de la nature, donc, ce qu'on appelle le tournant des droits de la nature, ce que moi j'appelle aussi la seconde saison en fait des Naturwissenschaften, par rapport aux Naturwissenschaften du 19e, qui a été ce tournant, qui a ensuite accompagné le mouvement romantique allemand. Donc c'était Novalis, Schlegel, en commençant par Goethe, qui passait par Rousseau. D'ailleurs, toute l'Europe romantique avait quelque chose qui se posait la question des relations qui était en train de se perdre déjà avec des phénomènes d'urbanisation. Et c'est vrai que depuis une soixantaine d'années, depuis, disons, même les premières alertes de Rachel Carson, encore avant, ou le rapport Meadows de 1972, il y a véritablement une prise en charge par les sciences humaines. Alors ça donne une anthropologie de la nature, une sociologie de la nature, et ça a fini par donner des tournants dans le droit. Alors je pense qu'on y reviendra, mais en tout cas, ce tournant des droits de la nature, ça pose un nouveau cadre. Et en fait, très vite, donc, j'en suis venu à la question de la langue parlée par ces entités non humaines. C'est-à-dire que si le fleuve dit je, si la rivière dit je, si la forêt dit je, y compris si des cycles naturels de type le cycle de l'eau doit pouvoir parler, ou les pollinisateurs, ou une espèce en voie d'extinction, ou une espèce menacée, en fait, si des entités non humaines accède au statut de sujet de droit, alors en quelque sorte, il faut penser la langue de cette institution en devenir, la langue de ces sujets que j'appelle parfois des sujets émergents du droit. Et donc, en fait, c'est comme ça que progressivement, alors que je travaillais à la Société européenne des auteurs, a germé l'idée d'accompagner par une nouvelle institution potentielle ou une nouvelle narration instituante le tournant des droits de la nature.
Alors, ça pourrait commencer aussi avec cette idée de soulèvement légal terrestre, parce que pour en venir à former des auditions en vue d'un Parlement de Loire, il faut déjà des théories antérieures qui permettent d'avoir cette idée-là et d'essayer de la rendre concrète. Et ça pourrait passer par cela, le soulèvement légal terrestre, et notamment le mot légal, puisque tu es de formation juriste.
C'est ça, l'expression en fait soulèvement légal de la terre ou soulèvement légal terrestre que j'emploie en fait parallèlement à ce qui se joue avec la ZAD et les soulèvements de la terre, mais sans savoir encore, parce que j'emploie cette expression soulèvement légal de la terre pour qualifier le tournant des droits de la nature. Et j'ai eu des discussions avec des compagnons, notamment Jay Jordan à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et il disait en souriant, nous, nous sommes les soulèvements illégaux de la terre. Et toi, tu t'occupes du soulèvement légal terrestre. Et il y avait un petit, disons, une petite ironie dans sa parole, mais en fait, c'est qu'il comprenait assez mal ce que je signale. Ce que je signale, c'est que dans l'Anthropocène, et ça, je ne suis pas le premier à le dire, ça a été justement longuement élaboré et charpenté, à partir du moment où les actions humaines provoquent des rétroactions, des boucles de rétroaction, des réactions d'entités non humaines, alors on peut dire que les entités autres qu'humaines deviennent des agents sociaux, des acteurs sociaux. Et il se trouve que dans la continuité de cette pensée, que désormais dans l'Anthropocène, la nature, si on garde ce terme, devient un acteur social de grande envergure, un acteur global, si on pense au réchauffement climatique, par exemple, eh bien, en fait, on comprend aussi que son devenir sujet de droit accompagne cette transformation. C'est-à-dire, c'est un triptyque. L'histoire du grand partage a mis les entités non humaines à côté, elle les a sorties de la cité, en pensant qu'on allait fonder les civilisations et les sociétés humaines sur cette toile de fond, reléguée comme un paysage. Il se trouve que dans l'histoire moderne, il y a eu des boucles de rétroaction qui font que donc les entités non humaines sont revenues dans l'espace de la société, se rappeler à nous comme frappant à la porte ou rentrant par la fenêtre. Et là, on peut penser aux mégafeux, à différentes manifestations de la Terre. D'ailleurs, de tout temps, les tremblements de terre ont fait partie également des choses. Donc en fait, ce sont devenus des acteurs sociaux. Et il se trouve que par des hybridations du droit moderne et des cosmogonies ou des cosmovisions ou des cultures indigènes, certains peuples autochtones se sont mis à dire désormais, nous voulons utiliser les outils du droit moderne pour incarner nos représentations, nos relations, et on en arrive à instituer juridiquement ou légalement des entités naturelles non humaines. Et donc, dans mon langage, c'est comme si les entités non humaines étaient elles-mêmes à la manœuvre par leurs manifestations terrestres de grande ampleur, par leur colère. Elles étaient à la manœuvre pour demander des droits. Voilà. Donc, d'une certaine façon, je lis ce tournant des droits de la nature comme des manifestations sociales d'entités naturelles non humaines travailleuses qui, à force d'épuisement, d'éreintement et d'usage pour des intérêts humains restreints, se sont mis en quelque sorte à revendiquer des droits pour entrer dans la cité, pour défendre en quelque sorte leur temporalité, leurs valeurs, leurs besoins et leurs intérêts. Voilà en quelque sorte comme ça que j'en arrive à cette expression, soulèvement légal de la Terre. C'est les différentes entités qui constituent l'espace de la Terre du côté des non-humains et qui tout d'un coup dit, désormais, nous voulons accéder aux droits. Voilà.
Alors, Camille de Toledo, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui s'est passé avec cette institution de Tours qui s'appelle le Polo, puisque c'est à partir de cette institution qu'a pu se faire les auditions du Parlement de Loire. Cette institution, ça a permis d'avoir un cadre.
C'est ça, un cadre, un récit, un lieu dans les potentiels du temps dont on avait parlé. J'avais cette définition où je reprenais la définition de l'utopie en disant l'utopie, c'est le hors-sol du marché. L'utopie, c'est la globalisation et le hors-sol, ce que Bruno Latour appelait le hors-sol. Et donc, nous autres, nous avons la charge de récits topiques, c'est-à-dire en fait de nous reposer la question des lieux, d'une reterrestration. C'est pas la reterrestration territorialisation deleuzienne, c'est de la reterrestration, c'est se reposer la question des liens à cet espace de la Terre. Donc ça, c'était tous les motifs atterrir, etc. Et donc, quand le pôle art et urbanisme, qui est une agence d'urbanisme, qui travaille avec des artistes, des auteurs associés, a cherché, alors ils avaient une sorte d'intuition vague, qui était, nous, on voudrait, dans la lignée du Parlement des choses, penser à un Parlement de Loire. Mais c'était très vague, c'était très flou. Et c'était déjà dans une logique de réattachement à un lieu, la Loire, le bassin versant. C'était pas encore très clair d'ailleurs ce qu'ils nommaient Loire. Et en fait, la directrice du pôle urbanisme, qui travaillait avec d'autres acteurs locaux, a vu la performance que j'avais écrite, qui s'appelle Les Témoins du Futur, que Bruno Latour avait aussi vu et d'une certaine façon validé d'un pouce vers le haut. Eh bien, lorsqu'elle a vu cette performance, elle a voulu me rencontrer. On s'est vu ensuite dans un autre lieu, dans un autre pays. Par hasard, on s'est retrouvés. Elle a vu de nouveau la performance. Elle connaissait par ailleurs mon travail d'écrivain et elle m'a dit, est-ce que tu veux être le coryphée ou l'orchestrateur de ce Parlement de Loire? Et très vite, je lui ai dit, ça m'intéresse à partir du moment où nous faisons entrer dans la question le tournant des droits de la nature. On est en 2019, 2017, c'est la loi en Nouvelle-Zélande qui donne le statut de personne légale juridique à une rivière qui s'appelle la Whanganui. 2016, c'est l'Atrato en Colombie, c'est-à-dire que c'est une rivière qui est en fait instituée par un juge cette fois-ci, par la jurisprudence, comme une personne juridique. Et donc on est dans ce contexte que j'ai déjà travaillé, de soulèvement légal de la terre, et je lui dis, il faudra qu'on se pose la question dans ce processus, dans cette narration instituante, est-ce que oui ou non, nous voulons, est-ce que oui ou non, il est possible, en droit français, avec tout l'héritage lourd du droit moderne, d'instituer, de faire de la loi une personne juridique ou une personne légale ou un sujet de droit. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et ensuite, parce que j'ai cette pratique, moi, d'écriture documentaire, j'ai fait dans les années 90 une série de documentaires sur ce qu'on appelait alors l'altermondialisation, enfin, qui était ce mouvement qui cherchait des solutions alternatives à la globalisation, disons, du marché, de la concurrence et, disons, de l'extractivisme ou de l'utilitarisme. Et donc, je lui ai dit, en fait, il faut une dimension parlementaire, il faut reprendre le modèle des auditions législatives. Et j'ai utilisé mon savoir qui venait de la science politique, du droit, pour dire, nous avons à constituer un collectif humain inquiet. Ça, c'est toujours une marque chez moi, l'inquiétude sur l'état des choses. Un collectif humain inquiet ou un collectif citoyen, la commission, un peu, voilà, notre Madame Bovary, comme je l'écris dans l'introduction, c'est-à-dire notre personnage, nous sommes aujourd'hui cette commission et nous nous demandons comment changer les termes de la relation entre nous les humains et les autres formes de vie. Et c'est à partir de là que ça a commencé comme des auditions législatives. En marge d'ailleurs et en parallèle de ce qui a eu lieu, mais en fait on ne le savait même pas, qui était la Convention citoyenne pour le climat.
C'est cela aussi l'idée que tu apportes pour ce Parlement de Loire, c'est de faire des auditions, c'est d'avoir une commission, c'est-à-dire déjà avoir une sorte de cadre d'assemblée, cadre légal en fait. Et ça déjà, c'est une idée que tu introduis. J'aimerais te faire parler un peu davantage là-dessus, sur cette idée-là, parce que c'est sans doute la bonne manière de pouvoir réaliser un Parlement de Loire.
C'est-à-dire qu'en fait, moi je m'intéresse beaucoup au processus de transformation et comment les collectifs humains arrivent à se transformer ou pas, arrivent à changer leur cadre représentatif ou pas. Il se trouve que quand on prend la question droit de la nature, on parle d'une entité rivière qui devient un sujet de droit. Ça vient défier toutes les partitions ontologiques connues, c'est-à-dire la vieille partition ontologique légale, je le rappelle, et c'est de là quand même qu'on part. Dans l'histoire moderne, c'est il y a d'un côté des sujets, de l'autre côté des objets. Ça s'appelle la summa divisio en droit, c'est la grande ligne frontière et qui en fait est à la base, aux fondations de tout le droit moderne. Et donc ce que ça signifie, ça veut dire que quand on est du côté des sujets, on peut utiliser, exploiter, s'approprier des objets. Or là, depuis ce tournant des droits de la nature, qui commence réellement avec la Constitution équatorienne de 2008, qui reconnaît à la terre-mère Pachamama le statut de personne juridique, voilà, légalement instituée, eh bien, en fait, avec ce tournant-là, on a des entités objets, traitées comme objets par le droit pendant des siècles, j'allais dire des millénaires, des siècles, et qui tout d'un coup basculent de l'autre côté de la frontière et devient sujet. Donc ça bouscule des représentations. Et je dirais la seule manière en fait de mesurer la capacité des collectifs humains à changer, c'est effectivement d'accompagner des gens qui n'étaient pas au courant de ce qui se jouait là, dans un processus de transformation. Et donc c'est ça qui a été passionnant au cours des 2 ans et demi. Et on est par ailleurs dans un moment clé, puisqu'on est pendant les années et les mois du Covid, où il y a l'entrée d'un acteur non humain, quelques lignes de code d'ADN qui vient en quelque sorte défigurer l'économie mondiale et la stopper. Donc c'est quand même une intrusion des non-humains qui est vraiment acméiquement une illustration de beaucoup de pensées qui pensaient l'agentivité des non-humains. Et donc on est dans ce cadre-là et on traverse ces mois compliqués. Et en même temps, il fallait réunir ces assemblées citoyennes, citoyens. Il y avait cette commission, des gens qui venaient de différents horizons, une archéologue, quelqu'un qui était en charge de mission de conservation du patrimoine, d'autres personnes en charge de questions d'urbanisme, un philosophe justement de la ville. Enfin, des profils, une directrice de l'école du paysage de Blois, disons qui était imprégné d'un certain nombre de pensées, notamment des lecteurs de Jean-Christophe Bailly, des lecteurs, mais qui n'avaient pas vu passer cette bascule juridique, qui n'avaient pas idée qu'on pouvait, par une forme de constructivisme juridique nouveau, instituer donc des personnes non humaines comme sujet. Et c'est ça qui était passionnant, c'était de les voir, eux et elles, évoluer au fil du temps dans leur réserve, dans leur résistance, en écoutant, en auditionnant donc des juristes. Il y a quand même beaucoup de juristes dans le livre, mais des philosophes, il y a des approches plus anthropologiques, il y a des approches plus scientifiques, hydrologiques. Enfin. Et progressivement, c'est cette grande bascule où à la fin du processus, de plus en plus de personnes venaient me voir en disant « C'est fou, maintenant, je me promène le long de la rivière et c'est un être. » Et c'était beau de voir en fait cette transformation de vision s'accomplir, notamment par le droit, puisque moi je suis quelqu'un, il faudrait en parler longuement, mais j'ai diagnostiqué, et on l'a encore vu récemment hélas, avec les soulèvements de la Terre, j'ai diagnostiqué en faisant des documentaires sur l'altermondialisme, la violence policière comme une résistance absolue à l'émergence d'un peuple écologique. Quoi. Grosso modo, je pense qu'on n'est plus du tout, même si on vit encore dans des mystiques en France, des mystiques révolutionnaires 1789 et autres, parce qu'on aime bien la France, c'est ça. Mais de fait, il y a une telle défense de la rente, de différentes rentes économiques sur le monde, que je ne vois pas, dans un horizon proche, la constitution d'une assemblée populaire suffisamment importante pour renverser la donne. Systémiquement, je ne le vois pas. Et donc, ce que je vois, c'est l'importance de plus en plus d'arriver à définir ce que j'appelle la loi à venir, c'est-à-dire ce vers quoi on va tendre pour véritablement qu'il y ait des transformations systémiques. Parce qu'à la fin, c'est ce qu'on cherche. On cherche effectivement des lieux de reterritorialisation, des ZAD, on cherche des alcôves, on cherche des peuples indiens, y compris au cœur de la modernité, on cherche des réattachements, on cherche à réatterrir, on cherche tout ça. Mais à la fin, on le voit bien, hélas, on n'arrive pas à produire de changements systémiques. Et avec ce levier du droit, je me suis dit, là, il y a possiblement quelque chose à penser. Mais je ne sais pas, on aura peut-être l'occasion d'en parler.
Alors, on va revenir au levier du droit, mais j'aimerais introduire déjà une première cassure et revenir aux fondamentaux du livre, par son titre et ses sous-titres, « Le fleuve qui voulait écrire ». Parce que Camille de Toledo, tu es aussi un écrivain, donc tu es quelqu'un pour qui la langue prend importance, et donc ça c'est le deuxième volet, et là je voudrais t'interroger là-dessus. Le fleuve qui voulait écrire, c'est le titre principal, et il y a le mot écrire dedans, c'est pas rien. Et puis, il y a cela comme sous-titre, mise en récit, Camille de Toledo. Donc, mise en récit, ça veut dire qu'on fait appel aussi au Camille de Toledo, écrivain, pour le mettre en récit. Et j'aimerais t'interroger là-dessus, et nous reviendrons bien entendu sur les questions de droit.
Alors, donc, ça a été, je l'ai trouvé à la fin et je parlais de ma pratique du documentaire. Donc, c'est vrai, quand on ouvre le livre, c'est un livre qui est composite, qui est composé. C'est un livre parlement, je l'appelle un livre parlement avec un trait d'union. C'est-à-dire qu'on entend des voix, y compris des voix de gens qui sont des autrices ou des auteurs. Il y a Frédérica Itouati, que tu as interviewé, il y a Bruno Latour, Il y a Marie-Angèle Hermite qui a écrit des articles, des livres. Sacha Bourgeois-Gironde qui est lui-même à l'école normale, qui enseigne dans pas mal d'universités et qui a lui-même son livre sur la Wanganui. Donc, il s'agissait en fait d'avoir ces différentes disciplines, ces différents savoirs et d'avoir, et donc c'est ça que j'ai obtenu d'eux, c'est j'ai obtenu d'eux une sorte de pacte d'écriture. Et le pacte d'écriture a constitué, enfin, a été formé, forgé de la façon suivante. Vous me donnez une parole orale, comme dans un documentaire. Ensuite, pour le livre, je vais la travailler de telle manière que vos différents langages, en fonction de vos disciplines, parce que ça, c'est un obstacle très fort, hein, à la transformation, c'est que chaque discipline, cantonnée dans son champ disciplinaire, a son propre langage. Et je leur ai dit, en fait, il faut que vous acceptiez que je fasse converger à un moment donné des termes, des motifs, pour que ça produise en quelque sorte quelque chose, certes, de polyphonique, avec des formes de dissensus, mais un dissensus qui produit des métamorphoses, c'est-à-dire qui converge vers quelque chose qui change. Et donc, en fait, ils m'ont donné en quelque sorte un feu vert ou une carte blanche, mais qui était une carte blanche sous réserve, c'est-à-dire que je réécrivais leurs paroles orales, je faisais converger des termes, je faisais émerger des motifs, je saisissais vraiment la langue pour qu'il y ait une dramaturgie dans les auditions. Et en même temps, ensuite, je leur faisais valider, c'est-à-dire que je leur envoyais le texte, et c'est eux qui me faisaient des retours en disant j'accepte que tu pousses ma langue jusque-là ou j'accepte pas. Et en plus, après, il y a eu cette autre strate, qui est la strate qui est pour moi le lieu même de l'écriture, qui sont les notes de bas de page, qui ont pour moi une importance cardinale. J'avais un éditeur chez au Seuil, hélas, paix à son âme, Maurice Hollander. Mais j'adorais cette phrase de lui, et je ne sais même plus si c'est lui qui l'a formulée ou moi au final, mais qui est que l'avenir se joue dans des notes de bas de page. Et de fait, dans ce livre, il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est-à-dire que c'est un appareil critique qui est très dramaturgique, qui est très écrit. Voilà.
D'ailleurs, j'ai commencé la première citation par une note de bas de page qui vient vers la fin du livre. Et effectivement, il faut dire que ce livre-là, les notes de bas de page sont très précieuses et je crois que j'ai souligné autant de notes de bas de page que le texte lui-même, en fait. Et d'ailleurs, il y a aussi cette caractéristique où il y a une écriture manuscrite qui vient par-dessus, en fait, comme une sorte de police de caractère manuscrite qui vient rajouter des choses, notamment vers la fin, vers les schémas, qui rajoutent aussi, on va dire, cette trace de l'écriture. Avant de revenir au droit, je voulais qu'on en vienne sur cette question de l'archive pour l'avenir. Il y a deux mentions dans le livre et ça m'a particulièrement interpellé. Je te cite: Et si les enfants à venir, élevés dans l'effroi de la crise bioclimatique, étaient en mesure de légiférer, de fixer les cadres d'assemblées mixtes, humaines et autres qu'humaines, de quelles archives disposeraient-ils pour lancer ces métamorphoses? Il y a deux mentions de cela. Si bien que ce livre peut se lire comme des archives pour des terrestres futurs sur voici comment on en est arrivé à vous, ce que vous allez pouvoir faire, ou voire même ce que vous êtes en train de faire.
Oui, en fait, donc ça c'est vraiment la notion d'archives à venir, d'archives pour des temps à venir, elle me vient vraiment d'une philosophie de l'histoire qui s'est affirmée chez moi au fil du temps, et on la sent à travers mes différents livres, que je vais chercher dans les dernières thèses sur l'histoire de Walter Benjamin. On retrouve d'ailleurs dans un livre ultérieur, Une histoire du vertige, la peinture de Paul Klee possédée par Walter Benjamin à un moment de son existence et qui, disons, il présentait comme l'ange de l'histoire. En somme, c'est que ça part de cette idée que nous perdons le présent, nous perdons au présent. Je veux dire, l'histoire du XXe siècle, sur laquelle j'ai quand même beaucoup passé d'heures, l'expérience du XXe siècle, comme je l'ai qualifiée, est une expérience d'une certaine façon de défaite, de lutte aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu des victoires, mais il y a eu beaucoup de défaites. Il y a eu des défaites face au totalitarisme, il y a eu une défaite des idées du 19e siècle de socialisme, il y a eu des défaites de ce qu'on a voulu appeler le socialisme à visage humain. Il y a eu un certain nombre de défaites au fil du temps, au fil de la modernité. Et en fait, ça constitue pour moi une histoire, en quelque sorte, une archive de récits alternatifs qui pourraient être repris sans cesse dans les temps à venir. D'ailleurs, on le voit en fait très concrètement quand il y a des périodes d'âpreté, de douleur, de difficulté. On va toujours chercher dans le passé, on l'écrivait comme ça dans les potentiels du temps, c'était très clairement posé dans les potentiels du temps. Et donc, avec ce livre, il y a une phrase qui m'a guidé, qui est une interview de Descola au Monde, où il dit en somme, en tout cas c'est moi qui l'interprète ainsi, nous venons de traverser 60 années de reprise des liens avec la nature, avec les non-humains, avec le terrestre, avec la planète si on veut, selon les différentes terminologies, avec le vivant si on va chez Morisot. Bon, on vient de passer 60 ans à essayer de retisser des liens de différentes manières. Et il compare ce mouvement à un Aufklärung, des lumières terrestres en quelque sorte, en disant, regardons ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Il fallait la pensée politique du XVIIe, de Montesquieu, et des lumières, d'égalité, du contrat social, etc. Parce que le jour où il y a eu le grand soir de 1789, celles et ceux qui ont pris la Bastille, puis qui ont été au Jeu de Paume, puis qui ont fait la nuit du 4 août, avaient une archive auquel s'attacher. C'est-à-dire qu'en fait, les idées étaient là. Et donc, les grandes pensées étaient là. Et d'ailleurs, il y a assez peu de grands penseurs de la politique et de la philosophie politique au moment révolutionnaire. Dans les moments révolutionnaires, il y a une circulation de l'intelligence collective absolument fascinante, où chacun cherche dans le passé ce qui va pouvoir charpenter l'avenir. Et donc, d'une certaine façon, je vois notre époque comme une époque d'attente. Je l'avais déjà écrit en ces termes dans Les Potentiels du Temps. Une époque d'attente, et c'est pour ça que je fais appel à une génération plus éclairée à venir, qui aura plus de leviers, je l'espère, en tout cas c'est mon souhait, et qui, le jour où ils auront vraiment les leviers de ce que moi j'ai fui toute ma vie et qu'on appelle le pouvoir, eh bien, à ce moment-là, ils pourront se retourner vers des livres instituants. Le fleuve qui voulait écrire, pour moi, en est un. Quand je l'écrivais, je me disais, je vais leur faire le travail de jurisprudence. Je vais, dans les appareils de notes, je vais compiler, comme on faisait les compilations du droit, d'un droit à venir. Je vais leur montrer où et quand les décisions étaient prises, qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer, sur quoi ils peuvent s'appuyer, parce que dans le droit, on s'appuie toujours sur des précédents. Donc, comme, quel précédent, sur quel précédent ils peuvent s'appuyer pour instituer les relations au monde des humains autrement. Voilà. Et donc, oui, c'est en ce sens que j'emploie régulièrement ce terme d'archive pour l'avenir, comme une réponse à une certaine forme, par ailleurs, d'impatience ou de désespérance quand on regarde l'état du présent, qui est un état à la fois violent d'un point de vue policier, de répression, de montée en puissance des totalitarismes, de différentes formes d'hégémonisme, y compris dans les démocraties, dans le contexte de la guerre ukrainienne, c'est frappant. L'Europe ne sait, et les démocraties ne savent répondre aux tyrans qu'en parlant de puissance. Donc en fait, là, c'est le réarmement en Allemagne, partout ça réarme. Donc on voit quand même qu'on est loin des grands espoirs de la fin de l'histoire de 89. Et donc, il y a en fait, pour moi, un désarroi à voir toujours triompher la question de l'hégémonie, du contrôle. En matière écologique, c'est la bio-ingénierie, c'est toutes les encodages marchés, c'est-à-dire la finance verte, la croissance verte, différentes formes de greenwashing, la contre-offensive des lobbies du pétrole, des gens qui se mettent à défendre aujourd'hui, j'entendais ça, la question du gasoil. En fait, c'est-à-dire que sans cesse, en fait, il y a un retour en quelque sorte de ces récits zombies d'une économie, y compris fossile. Et donc, je vois qu'on est en train de perdre de nouveau quoi, le présent. Et donc, il me semble, la seule manière de ne pas désespérer, c'est de toujours se projeter dans une histoire à venir, dans une archive pour l'avenir, pour des métamorphoses à venir.
Alors, nous allons revenir au droit et introduire le terme de fiction. Maintenant qu'on est passé par le fleuve qui voulait écrire, par la mise en récit, nous allons pouvoir revenir à la question juridique. Or, la question juridique, elle passe par le terme de fiction. Je te cite. « Aujourd'hui, une quantité d'idées reçues et de préjugés s'oppose à la personnalisation juridique des éléments de la nature. » Et tu écris un peu plus loin. « Nous pensons moins souvent au fait que ce que nous nommons entreprise n'a pu se développer qu'à la faveur de fictions juridiques, lesquelles ont donné des droits à des entités séparées. Peux-tu nous expliquer ?
Alors, ça c'est vraiment pour moi, effectivement, pour un répertoire moderne, c'est vraiment la clé. En somme, à la fin du 19e siècle, des juristes se posent la question au moment des faillites. Au moment des faillites, les entreprises font faillite et le patrimoine était solidaire du patrimoine des foyers, des familles, des gens qui constituaient l'entreprise. Donc si moi j'avais une entreprise au 19e siècle et que je faisais faillite, les créanciers venaient chercher ma maison, ils venaient chercher littéralement mes meubles. En fait, tout prenait et ça induisait de grandes situations de détresse. Et les juristes se sont mis à se poser la question de savoir comment protéger. Et c'est ça, c'est la grande ironie, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est que, au départ, c'était, disons, d'une certaine façon, une logique de protection. C'est comment est-ce qu'on va protéger les personnes humaines des faillites? La solution qui a été trouvée, c'est nous allons diviser ou couper entre le patrimoine d'une famille, c'est-à-dire, bon, mettons qu'il y ait des petits propriétaires qui ont une maison, eh bien, en fait, la maison ne pourra pas être saisie. Parce que le patrimoine de la personne physique va être séparé de la personne morale. On a créé donc ces fictions pour créer des personnes morales. Et alors là, il y a eu un grand débat entre les juristes de savoir si les personnes morales, c'est-à-dire au fond des quotités d'argent, du capital, instituées comme sujet de droit, c'était le grand combat entre ce qu'on a appelé la théorie de la fiction et la théorie de la réalité. Et il y a eu des débats entre des juristes infinis. La situation qui est citée, elle est assez amusante. C'est certains juristes disaient, en somme, je n'ai jamais mangé avec une personne morale pour dire qu'elle n'existe pas. Et la réponse des juristes qui tenaient de la théorie de la fiction disait, et pourtant, moi, j'ai souvent vu des personnes morales payer l'addition. Donc, en bref, ils apportaient cette question, cette dimension, en fait, de la réalité de cette fiction séparée, qui était l'entreprise. Mais si on observe les choses comme ça sur un temps long, on peut se poser la question, indépendamment de savoir qui avait raison, qui avait tort, est-ce qu'une entreprise existe, est-ce qu'elle n'existe pas, est-ce qu'une entité d'argent, c'est une fiction juridique instituée comme sujet, ou c'est réel, ou si c'est de la fiction. La question, en fait, c'est peu importe, c'est que, d'une certaine façon, cet encodage juridique qui naît d'une convention sur laquelle nous nous mettons d'accord collectivement, pour protéger des gens, comme je le disais, qu'est-ce qu'elle va faire au nom de ses droits? Et là, on a toute l'histoire du XXe siècle et l'accélération du capitalisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise peut dire « je », qu'une entreprise puisse dire « j'ai des droits », qu'est-ce que va vouloir l'entreprise au fur et à mesure où elle rapporte des revenus, enfin des bénéfices? Elle va vouloir défendre ses droits et en fait, elle va vouloir plus de droits. Donc toute l'extension du droit des marques, du droit des affaires, est liée en quelque sorte à ce petit notule, ce petit engrenage qui a été décidé dans différentes sociétés de modernes, en Europe et aux États-Unis, en disant « nous allons créer des sujets de droit non humains ». Et c'est là d'ailleurs, on a déjà des sujets de droit non humains. C'est que l'argent, des quotités d'argent sont devenus des sujets de droit non humains. Mais je le souligne toujours dans ces questions, c'est que les États sont des sujets de droit non humains. Quand on parle de l'État français, d'une certaine façon, il n'a pas d'existence biophysique. Il n'existe pas. L'État allemand n'existe pas. L'État états-unien n'existe pas. Ce sont, disons, des collectifs humains qui, de manière conventionnelle, avec des contrats sociaux divers et variés, ont décidé que oui, là, il y avait une entité étatique avec une frontière. Donc on est, nous, désormais, déjà depuis très longtemps, on n'arrête pas de dialoguer avec des entités fictionnelles non humaines qui produisent des effets de réel. Incontestablement, ils construisent le réel. Et donc ça, c'est l'histoire, en fait, de ces non-humains entreprises, de ces non-humains États. Et le moment critique, et je trouve pour ça que c'est passionnant, la question des droits de la nature, c'est que le moment critique dans lequel nous sommes et que nous avons à vivre, nous pose une question, c'est comment est-ce que nous rééquilibrons depuis les entités non humaines, végétales, animales, cette imbalance, ce déséquilibre qui a donné des surpouvoirs Ah, je les décris comme des vastes personnalités, des surpouvoirs à des États, des surpouvoirs à des quotités d'argent, qu'on va appeler le capital et des entreprises, etc. Et comment est-ce qu'on en vient à contrebalancer ça? La réponse jusque-là, ça a été de dire, nous avons la société civile, nous avons donc les différentes luttes écologiques, et in fine, nous avons, parce que les gens veulent croire encore aux États, nous avons les États qui feront le bon arbitrage. Et vraiment, je m'arrête là-dessus. Après 30 ans de libéralisation des marchés, les États, on peut le dire, je crois, et le jeu Duplice qu'ils ont joué tout au long de l'histoire des modernes, les États sont des acteurs productivistes. Les États ont failli dans la défense des intérêts et des communs naturels. Et donc notre question humaine, disons, de gouvernance, ça devient comment est-ce que nous créons des entités qui défendent des valeurs non humaines pour défendre les intérêts des générations futures d'humains. Je lis toujours ces deux choses. C'est on ne défend pas la perspective d'une rivière ou d'une forêt juste pour que la forêt soit défendue. C'est parce que nos vies humaines et celles de nos enfants en dépendent. Et donc donner la personnalité juridique à des entités non humaines permet de remettre de l'équilibre dans la balance, de contrebalancer les surpouvoirs dont je parlais à l'instant, et en même temps permet de faire rentrer une chose qui n'existe pas dans l'histoire des modernes, c'est le temps long. C'est-à-dire le temps géologique d'une rivière. Il faut imaginer ce que c'est une rivière qui va devant un tribunal. C'est tout d'un coup, on a des millénaires qui parlent. Et donc on a en quelque sorte le temps très long, comme on a eu le temps des séquoias, puisque toute cette histoire a commencé avec une histoire de séquoias. Donc voilà. Ça, c'est l'enjeu, en quelque sorte, si on se tient à l'histoire des modernes. Après, pour moi, il se joue d'autres choses. C'est la connexion entre les droits de la nature, les entités non humaines, et l'absolue nécessité que nous avons, depuis l'intérieur des sociétés modernes, de nous inspirer des cosmovisions que Descola appellerait animistes ou totémiques, comme ça a été le cas en Nouvelle-Zélande, ou comme ça peut être encore le cas en Amérique latine.
Nous allons y venir. Donc entrons maintenant dans le sujet des auditions. La première audition a lieu avec Bruno Latour, accompagné de Frédéric Aïtouati. Nous ne parlerons pas des apports de Frédéric Aïtouati. Elle a déjà été interviewée 3 fois à cette émission. Et donc on a déjà l'archive à cette émission du Fictionnaire du théâtre latourien qu'elle a composé avec Bruno Latour. J'aimerais t'interroger sur Bruno Latour en tant qu'inspirateur, puisque c'est lui qui a émis l'idée du Parlement des choses, et donc ça peut être dans cette généalogie, bien entendu, et j'aimerais te demander ce que t'apporte Bruno Latour, notamment dans cette audition où il appuie fortement sur cette question « Où est le peuple de Loire ?» Ça serait la grande question qu'il pose à la Commission, qu'il pose à l'Assemblée, qu'on pourrait dramatiser ainsi, parce que c'est plus... tendu de la dramatiser, mais montrez-moi le peuple de Loire. Enfin, à chaque fois, j'entends plutôt cette phrase de Bruno Latour, mais montrez-moi le peuple de Loire, ça serait une injonction, et donc une injonction au travail, en fait. Une injonction à travailler, une injonction à documenter, une injonction à enquêter.
Oui, et c'est là, moi, j'ai vraiment plus que de l'admiration et de l'amitié, mais je dois dire une chose, c'est que je ne viens pas dans cette aventure des auditions du Parlement de Loire avec les outils latouriens. Je viens avec les outils juridiques issus des droits de la nature et ça m'intéressait d'entendre la position de Bruno Latour parce que, en fait, les droits de la nature étaient en train de s'imposer et il ne s'était pas exprimé dessus. Depuis, d'autres grandes figures, notamment l'anthropologie de la nature de Descola, Philippe Descola s'est exprimé en faveur de la personnalisation juridique des entités non humaines. J'ai eu un échange assez long avec Baptiste Morisot. Baptiste Morisot est très réservé sur cette question de l'institutionnalisation des entités naturelles. D'autres juristes sont très réservés. Bruno Latour est arrivé avec son regard de sociologue de immédiatement poser la question du peuple. Où est le peuple ? Et où est le peuple qui se lie à Loire? Et sa question est formulée de manière assez brutale, c'est alors s'il y a aujourd'hui, je prends l'exemple ukrainien parce qu'on l'a sous les yeux, s'il y a aujourd'hui des gens qui sont prêts à mourir pour l'Ukraine, Si demain la France ou par le passé, si la France a été attaquée par le passé et qu'il y a eu à un moment donné un certain peuple, parce que loin d'avoir eu l'ensemble du peuple français, mais certainement pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu quand même la résistance. Et donc il y a eu des alcôves, il y a eu des embryons de peuples à venir qui se sont battus pour l'idée de la France. Et donc l'idée du politique chez Bruno Latour, elle est très d'ailleurs en dialogue avec Carl Schmitt, il me semble, c'est qui est mon ami et qui est l'ennemi. Et est-ce que nous arrivons à nous mettre d'accord, nous les autres les humains, sur les amis, c'est-à-dire les gens avec lesquels nous avons envie de construire une société, et les ennemis, ceux contre lesquels on se bat. Donc c'est très schmittien. Moi j'arrive, et on vient de l'évoquer, en parlant des entreprises, j'arrive avec des outils en fait. J'arrive soit avec des cosmovisions tout autres, c'est-à-dire des peuples indigènes, et ça on ne l'a pas dans l'histoire moderne, c'est-à-dire si on se pose la question de Loire, on n'a pas un peuple ethnique capable de dire « nous sommes Loire », comme on a la Wanganui et des gens qui sont capables de lire « je suis la rivière et la rivière est moi ». Qui peut dire dans un espace moderne comme la France ou comme l'Allemagne ou d'autres pays européens « je suis l'entité naturelle » ? On commence à l'avoir avec des ZAD, mais ça ne va jamais faire l'unanimité. Ce sont des peuples embryonnaires, ce sont des petits peuples, ce sont des alcôves, ce sont des peuples de lutte, donc ce sont des peuples écologiques. Mais ce n'est pas le peuple de Loire, parce que parmi les Ligériens, il y a des entrepreneurs, il y a des industriels, des gens qui vont défendre l'industrie nucléaire, d'autres qui vont être des pêcheurs, qui vont avoir une perspective de pêche, d'autres qui vont être des agriculteurs, qui vont vouloir prélever sur la masse d'eau et construire des bassines et des méga-bassines. Donc le peuple de Loire, si on le prend en tant que toutes celles et ceux qui dépendent du fleuve et du bassin versant Loire pour vivre, c'est 1/5 du territoire français et que des gens qui ne sont pas d'accord. Donc ça ne fait pas une capacité de projection pour dire nous sommes la Loire et nous sommes les valeurs et les intérêts du bassin versant de Loire et notamment plus largement du cycle de l'eau. Et donc moi je viens avec d'autres outils. Je viens justement avec cet exemple, c'est que, lorsque l'on considère une entreprise ou un État, il n'y a pas un peuple de l'État. Il y a des gens qui sont payés par l'État pour accomplir une mission étatique. Lorsque des gens sont embauchés par une entreprise, en fait, ils servent les intérêts de l'entreprise. Et ma grande question, est-ce que nous pouvons faire la même chose avec des entités non humaines, c'est-à-dire être subordonnés par un contrat de travail, comme on pourrait dire des gens qui travaillent au WWF sont tenus par la charte du WWF ou de Greenpeace, ils sont employés par ces ONG et ils servent les valeurs, les besoins, les exigences, les objectifs de ces ONG. Donc si on est au WWF, on va défendre la faune sauvage essentiellement. Si on est à Greenpeace, ça va être des mandats plus vastes. Mais quoi qu'il en soit, on est face à des vies humaines subordonnées à des objectifs institutionnels qui vont faire que dans le jeu d'acteurs plus vaste, des gens humains vont défendre des intérêts non humains. C'est ça, moi, ce avec quoi j'arrive. Et on l'a déjà d'une certaine façon, mais on l'a mal. C'est-à-dire qu'autour de Loire, il y a des agences de l'eau, il y a l'établissement public de la Loire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont payés par des instances étatiques pour régler les affaires d'usage du fleuve. Sauf que dans leur langage, c'est un langage utilitariste, issu de l'histoire moderne, avec le langage de « attention à la ressource », nous devons partager la ressource, nous devons faire dans l'anthropocène avec des phénomènes de sécheresse, donc la ressource s'amenuise, etc., etc. Mais on a bel et bien des gens humains qui ont la charge, moi j'appelle ça une entité non humaine, parce que je veux aller vers cette forme de ce que j'appelle l'éco-décentrisme. Moi j'emploie pas le terme d'éco-centrisme, à la différence ou à l'opposition avec l'anthropocentrisme. Je pense que les droits de la nature produisent une situation institutionnelle nouvelle, hybride, à mi-chemin de l'histoire des modernes et de cosmovision indigène, qui font qu'il y a des acteurs, possiblement des acteurs non humains,
qui vont entrer sur la scène sociale et qui sont à la recherche de leur gouvernance. Voilà en fait ce à quoi on a affaire. Et moi, ma grande question, c'est comment est-ce que j'arrive, là encore vraiment de point de vue de l'économie politique, à obtenir qu'il y ait une autonomie de ces acteurs non humains, c'est-à-dire une autonomie vis-à-vis de l'État. Et là, je t'explique très vite pourquoi. C'est que si c'est l'État qui continue à nourrir un fonds de dotation pour qu'on ait un sujet de droit Loire, alors les gouvernants ou les gardiens de l'entité Loire feront ce que leur dit leur maître, et leur maître, ce sera l'État. Et l'État est un acteur productiviste, ça ne produit pas un bon jeu d'acteurs. Donc moi, ma grande question, c'est comment est-ce que j'arrive à autonomiser les ressources monétaires de l'entité Loire pour que ces gardiens servent véritablement dans le jeu d'acteurs des intérêts non humains, c'est-à-dire le temps long des générations futures humaines. C'est ça ma question là dans l'étape d'après, c'est comment est-ce que j'obtiens l'autonomie. Exactement, et l'exemple qui est souvent donné par les gens avec lesquels je travaille, c'est lorsqu'on prend un organe de presse comme The Guardian ou Mediapart, puisque ça s'est posé, leur question c'est comment est-ce que j'arrive à créer une autonomie financière de cette entité pour ne pas dépendre des aides de l'État et ne pas dépendre de la publicité. En fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si les acteurs naturels non humains deviennent des acteurs sociaux, et ils le sont, et si ces acteurs sociaux deviennent des acteurs juridiques, et c'est en train d'arriver, alors comment est-ce que ces acteurs juridiques non humains vont pouvoir projeter dans l'espace social une indépendance de perspective, un point de vue propre, défendant leurs valeurs, leurs besoins. Et là, c'est vraiment intéressant. Parce que là, tout d'un coup, on a une bascule systémique possible. Mais voilà, je m'arrête là.
Alors, on a tout ce point-là qui est important, et ça, j'imagine que c'est ton travail actuel et ton travail à venir. Et effectivement, tu nous as bien expliqué, Camille, à quel point c'était important d'avoir indépendance. Quand tu cites The Guardian ou Mediapart, effectivement, ouais, c'est appartient au lecteur qui contribue, en fait, tout simplement, qui paye pour The Guardian, c'est ça. Il y a toujours des levées de fonds indépendantes. Donc, c'est les lecteurs ou des bienfaiteurs, en tout cas, qui payent. Mais ce n'est pas acheté. C'est différent de nos différents organes de presse papier en France. Donc, ça, tu l'as très bien expliqué. J'aimerais te faire parler sur une notion aussi qui court le livre, celle d'animisme juridique. Parmi les auditions, il y a Marie-Angèle Hermite qui est interrogée et qui utilise depuis les années 2000 cette notion d'animisme juridique qui est utilisée par d'autres personnes auditionnées. Elle infuse justement, c'est pas ça qui garantit l'indépendance, mais c'est peut-être ça qui fait conception pour permettre des gardiens de Loire et peut-être un embryon de peuple de Loire, parce que qui dit animisme dit un peuple qui pourrait être concerné fortement par Loire, peut-être pas au point de faire des guerres, mais en tout cas de défendre au moins au point d'en être gardien.
Ouais. Alors Marie-Angèle Hermite, et je la remercie d'avoir été présente. Donc, a été effectivement pionnière, c'est vraiment elle. Moi, je suis un passager clandestin du droit, j'ai fait de la science politique, mais je n'ai pas poursuivi, mais ça m'a beaucoup, beaucoup passionné au moment de mes études. Et c'est pour ça que je continue à utiliser ces outils et je les connais assez bien. Marie-Angèle Hermite, vraiment, est de l'intérieur du droit. Il se trouve qu'elle a une position assez minoritaire. En France, on est, disons, avec une grande, grande majorité, avec beaucoup, beaucoup de résistance à l'égard de ces outils, donc de la personnalisation légale d'entités non humaines. En France, c'est très, très résistant. Je le mentionne parce qu'en Espagne, on a désormais le premier écosystème, Mar Menor, qui est donc une lagune ou une wetland, une zone humide, où on a observé le phénomène du poisson mort et donc des phénomènes d'eutrophisation de l'eau, c'est-à-dire en fait, à force de rejet d'intrants chimiques, en fait, l'eau se réchauffe, elle n'a plus d'oxygène, résultat, les poissons meurent. Et donc, en fait, à l'initiative d'une députée du Parlement espagnol, ils ont, donc c'était vraiment initiative citoyenne, les signatures, ils ont obtenu donc que la loi soit présentée au Parlement et elle a été votée. C'est le premier écosystème en Europe qui a accédé au statut de personne légale. Et Marie-Angèle Hermite, c'est vrai, elle a été une battante de ça. Je pense qu'elle a, elle me l'avait même dit, c'est elle avait commencé à travailler sur ces questions indépendamment de sa lecture de Christopher Stone, qui est donc le premier juriste dans l'histoire du droit moderne en 1972, donc aux États-Unis, en Californie, qui formule l'hypothèse que peut-être il faudrait que les arbres, en l'occurrence là c'était des séquoias, puissent se défendre par eux-mêmes en justice. C'est-à-dire que les lois, les séquoias puissent avoir un standing, ils puissent aller devant les tribunaux. Et donc ils accèdent au statut de sujet de droit, etc. Donc Marie-Angèle Hermite, elle travaille et c'est très passionnant. Je vais donner un exemple. En fait, Marie-Angèle Hermite, elle vient du droit de la propriété intellectuelle. Et l'exemple, pour que ce soit très clair pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est l'histoire d'une plante. On sait que les plantes et les propriétés des plantes sont utilisées massivement par deux industries, l'industrie de la pharmacie et l'industrie cosmétique. Les plantes sont surexploitées par ces deux industries. Eh bien, on sait par ailleurs que si moi ou un inventeur ou un labo modifie la plante pour produire un organisme génétiquement modifié, alors je vais pouvoir déposer un brevet, c'est toute l'histoire du brevetage du vivant depuis les années 80, et donc je vais pouvoir toucher des royalties ou des droits d'auteur sur cette invention, c'est-à-dire cette plante modifiée qui va servir à tel ou tel usage. Voilà le monde humain que l'on a bâti et qui est aujourd'hui là, sous nos yeux, quotidiennement. Qu'est-ce qui arriverait, et ça c'est d'une certaine façon la question de Marie-Angèle Hermite au départ, si la plante était sujet de droit et qu'elle n'était pas modifiée mais qu'elle était par contre utilisée par l'industrie cosmétique? Alors, possiblement, dans un monde où la plante est une entité juridique autonome, elle est propriétaire de ses propriétés, j'allais dire, et donc elle va pouvoir toucher des droits d'usage sur l'exploitation de son ADN, de son être. Et donc on rentre dans un monde qui est absolument fascinant, qui ressemble à de l'anticipation ou à des récits d'anticipation de type science-fictionnel ou autre, mais qui, en fait on n'en est pas du tout très loin en fait. Il suffit juste de petits leviers juridiques et on bascule là-dedans. Et moi d'une certaine façon je vais jusque-là à penser la faisabilité de ce monde-là. C'est la plante qui effectivement va toucher des droits d'auteur sur l'usage de ses propriétés. Et là, à ce moment-là, on entre dans une bifurcation qui est violente, c'est-à-dire que tous les défenseurs de l'écologie, ou beaucoup, vont hurler en disant « service écosystémique », c'est-à-dire monétisation du monde, extension aux entités de la nature. Il faut absolument protéger les entités non humaines d'elles-mêmes pour qu'elles ne puissent pas commercialiser leurs propriétés, parce qu'alors ce sera la dernière frontière, je reprends ce terme de la culture américaine, the last frontier, et que grosso modo on ira vers de plus en plus. Moi ce que je dis à cet endroit-là, c'est que c'est une mauvaise interprétation, parce que si la plante est propriétaire d'elle-même, ça veut dire aujourd'hui la situation que nous avons, c'est que ce sont des plantes esclaves qui sont utilisées par l'industrie, et elles le sont de toute façon. Le jour où elles accèdent à l'autonomie juridique, alors on rentre dans un monde passionnant où en fait une espèce de plante va pouvoir revendiquer non seulement de meilleures conditions de travail, mais des revenus sur l'usage qu'on a d'elle. Et résultat, la question devient passionnante parce que qu'est-ce que fait l'espèce plante avec ses revenus ? Eh bien, l'espèce plante instituée, c'est pour ça que c'est si différent des services écosystémiques, c'est radicalement opposé, c'est que l'espèce plante va pouvoir, elle, défendre des intérêts non marchands. Elle va pouvoir racheter des terres. Elle va pouvoir défendre d'autres plantes. Elle pourrait mutualiser dans des caisses de défense d'intérêts non humains. Elle peut défendre et payer des avocats pour défendre le temps long. Elle peut embaucher des cabinets d'avocats pour défendre des écosystèmes contre l'usage d'engrais chimiques. Donc en fait, là, on a possiblement la vision à venir d'une contre-offensive des entités non humaines par ce petit levier de la personnalisation juridique des espèces, des écosystèmes.
Et alors, tout ce que tu énonces, Camille de Toledo, elle se saisit bien à la fin du livre, qui est composé d'un certain nombre de schémas, dont celui-ci, comment saisir d'un seul regard la logique du soulèvement légal terrestre. Et on comprend qu'on part de objet de droit, sujet de droit, crise terrestre. On comprend qu'on a là un schéma, et c'est ce que tu viens de nous expliquer depuis à peu près 20 minutes, en fait, c'est que l'utilité de se saisir du droit est finalement, en modifiant pas grand-chose, un petit cliquet, à la manière de ce qui s'est passé dans le 19e siècle, c'est-à-dire soudain cette fiction juridique vis-à-vis des entreprises qui a entraîné tout le 19e siècle et notamment ce tournant néolibéral à partir des années 80 qui fait que effectivement les entreprises, les multinationales se sont saisies du droit pour défendre leurs intérêts et on le voit bien avec une entreprise comme Total par exemple, ou les multinationales du pétrole ou, qui utilisent le droit pour leur puissance, et que ce cliquet-là, si le droit soudain est un petit peu modifié, mais pas grand-chose, ça entraînera un effet qui peut entraîner en fait un effet d'entraînement et qui peut être doté d'une certaine puissance. Alors j'aimerais t'interroger sur la manière dont tes activités actuelles, puisque ces auditions ont commencé en 2019, comment tes activités actuelles sont sous l'influence de tout ce que tu as entrepris avec ces auditions du Parlement de Loire et comment tu es en train de les continuer actuellement. Je sais que tu as quelque chose à Nantes, ouais, notamment, que tu effectues. Je sais également que tu effectues un travail de théâtre avec Frédéric Aïtouati, sans doute peut-être aussi pour prendre une autre version du théâtre latourien qu'elle a mené.
Alors, la suite de Parlement de Loire, c'est à Nantes, effectivement, avec des coproducteurs et que sont le Lieu Unique et l'Institut d'études avancées de Nantes pour la partie recherche. Donc, j'ai été nommé ce qu'on appelle chercheur associé. Chez moi, c'est à la fois chercheur et artiste associé pour proposer une nouvelle narration instituante pour les trois prochaines années. Donc ça va courir 2023, 24, 25, avec un livre, je pense, en 26. Le projet s'appelle « L'international des rivières et autres éléments de la nature ». Et c'est donc une repensée de l'économie politique à partir d'une prise en considération de l'économie réelle, c'est-à-dire de l'économie de vie, où en fait les entités non humaines ne cessent de travailler de manière thermodynamique, de manière chimique. Donc c'est vraiment, si on prend l'espace de la Terre, c'est Lovelock Margulis, c'est-à-dire en fait la Terre comme entité travailleuse, mais qui travaille à quoi ? Qui travaille comme finalité à une chose admirable, c'est elle travaille à de l'habitabilité. En fait, la Terre, avant l'émergence de la silhouette humaine, a été prodigieusement douée pour œuvrer. On retrouve presque le terme de création, quoi, mais de création pour œuvrer à de l'habitabilité. En fait, l'espace de la Terre a produit de la vie. Et les entités non humaines ont été incroyablement puissantes dans leur agentivité pour produire des espaces de vie, pour de multiples formes de vie. Et donc, en fait, là, on va repenser avec ce projet, on va repartir d'une pensée du travail qui va absolument pas se concentrer sur le travail humain, mais au contraire, prendre en considération le travail des entités non humaines. Donc le premier temps fort aura lieu le 17 et 18 novembre, et j'invite des géologues, des biochimistes, j'invite des historiens, un historien social de la nature, donc qui est François Jarige, j'invite des... tonnerre, manifestation. Manifestation de Gaïa. Mais ça, c'est un point qui m'a fasciné parce que c'est pas que je crois que la Terre parle, c'est que la Terre parle de mille manières, en fait. Elle s'exprime. C'est juste notre capacité à l'entendre et à l'interpréter qui est complexe. Mais la Terre parle. Là, on vient d'entendre un orage, un tonnerre. Ça a été fou, l'histoire du tremblement de terre. L'épicentre du tremblement de terre qui a eu lieu en France récemment, c'est Cranchaban. Cranchaban, c'est l'endroit où il y a eu la conflit des mégabassines. Un des conflits des mégabassines. C'est-à-dire qu'il y a eu une manifestation des soulèvements de la Terre avec des peuples écologiques engagés pour défendre le cycle de l'eau. Et quelques jours plus tard, il y a un soulèvement terrestre au sens propre, c'est-à-dire un tremblement de terre qui est avec un épicentre à Cranchaban. Il y a donc quelque chose comme ça, et je l'ai, on le trouve dans mes premiers romans chez Vertical. Il y avait quelqu'un qui était un, pour le coup, Gérard Darmanin le qualifierait d'éco-terroriste, mais qui revendiquait des catastrophes naturelles. C'est-à-dire, il pensait l'intentionnalité politique d'un certain nombre de manifestations non humaines. Et je crois qu'on en est là socialement. Enfin, je veux dire, le jeu social, il est comme ça. On doit interpréter les méga-feux. On fait ça, en fait. Les méga-feux sont un langage. L'étiage d'une rivière ou la crue d'une rivière ou différentes formes de tornades, les différentes humanisations des tornades. Tu sais que les tornades ont des noms. On leur donne des prénoms, Cynthia, etc. Ça a une histoire. J'en racontais l'histoire dans un roman qui s'appelle « Vie et mort d'un terroriste américain ». Ça a une histoire. Et il y a eu même des combats très amusants parce qu'il y a les féministes qui se sont mis à hurler au milieu des années 90 parce qu'on donnait toujours des noms de femmes aux tempêtes. Donc, il y a une question du genre dans la question de la nomination des tempêtes. En tout cas, il y a des manifestations de la Terre. Et là, ce projet à Nantes, c'est de penser comment est-ce qu'on pourrait écrire une internationale des travailleurs non humains, pour le dire de manière succincte et synthétique.
Et ton travail avec Frédéric Aïtouati ?
Et le travail avec Frédéric, là, vraiment, c'est moi qui me suis... j'ai été la voir, je connais son théâtre, j'ai vu les travaux qu'elle avait avec Bruno Latour. Et en fait, je lui ai dit, écoute, Frédéric, moi, j'ai écrit pour le théâtre, notamment ce Parlement avec les Témoins du Futur, où il y avait déjà ces questions. Je lui ai dit, en fait, j'aimerais produire un texte parce que le théâtre de la Terre de Frédéric, il s'appuyait sur une parole d'un grand intellectuel qui était Bruno Latour. Mais c'était un théâtre sans théâtre, c'était un théâtre de conférences qui produit des effets de scène, mais qui n'avait pas l'agone ou la polyphonie du théâtre ou l'emmêlement des voix ou la présence de l'invisible. C'était quand même un intellectuel qui venait parler en fait de grandes métamorphoses avec des effets de théâtre qui accompagnaient en fait l'entrée en scène de Gaïa, comme Frédéric a pu la décrire. Et moi, j'avais très envie de lui dire, écoute, Frédéric, non, je veux écrire. Et alors, donc on l'a présenté une première fois, les ébauches au Quai Branly. Ça s'appelle Souvenir de la Terre, actuellement, Souvenir de la Terre. Et c'est la polyphonie de celles et ceux qui ont accompagné une grande scientifique des années 1940, enfin, qui est née en 1945 et qui est morte en 2010, et qui s'appelle Elisabeth Gardamer. Et c'est le testament, en quelque sorte, d'Elisabeth Gardamer, et qui cherche à produire vraiment le changement de représentation dans le rapport à la Terre, c'est-à-dire de montrer une Terre intelligente, sensible, au lieu de la décrire comme une Terre stoïque et neutre et minérale.
Merci beaucoup, Camille de Toledo. Merci à toi.